Bonjour à tous, CFM Sport 46. Bonjour chers auditeurs. Alors aujourd'hui, ben on va pas oser la faire. Hein. Je vais pas dire que je suis très joyeux, mais je reçois un monument du rugby lotois. Clara Joyeux, bonjour et merci d'avoir accepté d'être là à notre émission sur Sport CFM 46.
Bonjour, ben merci à vous pour l'invitation.
Écoute, c'est un grand plaisir et honneur d'accueillir la pilière de l'équipe de France de rugby, ainsi que du club de Blagnac. On va parler de tout ça, hein. On va parler un petit peu de ton parcours au départ, et puis on va parler de l'émergence aussi du rugby féminin à travers le club, mais l'équipe de France, et puis aussi l'échéance qui va arriver de la Coupe du Monde de rugby, en croisant les doigts que tu sois, mais ça, je pense que le sélectionneur nous écoute, et ça sera de fait. Donc Clara, tu as 27 ans, 1m73, 89 kilos, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et tu es originaire d'où?
De Rayac.
Alors c'est où Rayac?
Alors c'est dans le Lot, mais pour situer, bon, il y a Rocamadour, pas loin, c'est ce que je dis souvent, parce que ça parle pas beaucoup, Rayac, donc Rocamadour, ça parle beaucoup plus vite. Les petits Cabécous, ça parle beaucoup plus
effectivement,
vite.
Effectivement, avec la magnifique cité. Donc tu es originaire de Rayac. Ton papa et ta maman, ils font quoi?
Ils sont agriculteurs, okay. Éleveurs de canards, porc noir et un petit peu de lavande aussi.
D'accord, ok. Porc noir, c'est bon ça, mais bon, respect d'animal, il n'y a pas de souci là-dessus, bien entendu. Le canard aussi, le magret, tout ça, vous avez... Bon, il faudra qu'on parle après l'émission. Famille de rugby ou pas?
Mon père, oui, a pratiqué le rugby à Gramma. La ville, la grosse ville, on va dire, à côté de Rayac.
Ouais.
Donc il a pratiqué plusieurs années, ouais, jusqu'à ce qu'il il arrête. Je sais qu'il s'est cassé le nez, je sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, il a pratiqué, oui, plusieurs années à Gramma.
Sur une percussion, bien sûr, pas sur un mauvais geste, j'imagine, à Gramma.
je sais pas du tout ça.
Il y en a pas. D'accord. Et toi, tu suivais le papa un petit peu?
Non, j'ai pas connu quand il a joué au rugby, j'étais pas encore née.
D'accord. Et donc le rugby est arrivé comment?
Eh bien, j'ai toujours aimé le sport en général. À Gramma, on a quand même une section sportive. Au niveau du rugby, on a une section qui est assez performante quand même.
Ah,
on
oui.
va régulièrement ah, oui. au championnat de France, encore récemment.
Ah, oui. Je connais Monsieur Larény qui est professeur là-bas.
Voilà.
Qui,
alors moi, c'était pas Monsieur Larény.
Oui, il est trop jeune.
Voilà. Mais c'était Monsieur Blair, il y avait Monsieur Valade aussi. Donc oui.
Francis Valade?
Oui.
D'accord, qu'on salue. Je connais un petit peu sur Martel.
Ah, d'accord. Voilà. Oui, c'est ça, il était prof aussi à Martel.
On connaît bien Francis, cousin de Jacques Hérald aussi, qui était passé par Souillac, qui tue l'international B.
Donc c'était notre entraîneur à la section. Mais j'ai commencé un petit peu avant, en fait, j'ai pratiqué avant du karaté pendant, je pense, 3 ans. Et en fait, j'ai toujours voulu faire du rugby finalement, mais c'est ma mère qui ne voulait pas, parce qu'elle avait peur que je me blesse. Donc, parce que mon père s'était blessé, elle avait peur que je me casse le nez notamment.
Et
bon,
oui.
Finalement, je me suis cassé le nez après.
Voilà.
Et donc, elle a toujours pas voulu. Donc, j'ai fait 1 an de tennis après le karaté. Et elle a finalement accepté que je fasse du rugby. Donc, j'ai commencé à l'âge de 10 ans.
À Gramma.
Bon,
c'est bien qu'elle a pu te laisser jouer au rugby, hein, vu ton parcours.
Oui.
Mais merci, maman. Hein.
Ben maintenant, c'est la première à venir à chaque match. Odé, elle venait pas. En fait, plus je me suis éloignée de Gramma ou de Rayac, plus ils sont venus voir les matchs, parce qu'ils venaient pas plus que ça quand je jouais à l'école du rugby. À Saint-Céré, parce que j'ai joué aussi 1 an à Saint-Céré, ils ont commencé un peu à venir. Et en fait, à partir de Limoges, qui était quand même beaucoup plus loin, ils ont commencé à venir à pratiquement tous les matchs à domicile, en tout cas.
Là, ils ont dit, c'est sérieux, il y a quelque chose qui se passe, on va peut-être
ouais.
suivre la petite.
Peut-être.
Donc là, tu fais école de rugby de Gramma, 1 an à Saint-Céré, et après tu pars à Limoges. Pourquoi tu pars à Limoges?
Avant, j'ai fait Brive.
Brive,
donc
okay.
J'ai fait déjà Saint-Céré, en fait, c'était une entente avec, il y avait Bretenoux, Saint-Céré, Gramma. Donc on est allé assez loin aussi une saison, on avait une bonne équipe. Et donc après, j'ai fait le choix, bon, j'ai fait une saison blanche, j'ai dû me faire opérer de la cheville.
D'accord.
Ensuite, je suis partie à Brive. J'ai suivi donc l'entraîneur Romain Cabanero qui était à Saint-Céré, qui est parti à Brive. Donc j'ai fait ma dernière année cadette à Brive. Et en fait, j'étais à côté de ça, j'étais au lycée à Limoges, en fait.
Dans quelle filière c'était pourquoi
C'était un lycée agricole, c'était les Vasés.
Ok.
Donc j'étais, enfin même avant ça, pour revenir en arrière, donc j'étais au collège La Garenne à Gramma et juste après, en seconde, j'ai été au Pôle Espoir à Issoire. Pôle Espoir Rugby. Issoire, c'est à côté de Clermont-Ferrand.
Ouais, ouais.
Donc, sauf que la filière générale, ça me plaisait pas du tout. J'avais de très mauvaises notes. Donc, et je me suis réorientée du coup dans un lycée agricole. Donc ça, c'était l'année, c'est l'année où je me suis fait opérer de la cheville en plus.
T'as quel âge là ?
J'ai 27 ans.
D'accord. Non, mais là, à ce moment-là.
Ah, à ce moment-là, c'est l'âge où on sort du collège. On a quoi ? On a 15 ans.
Ouais.
Donc 15 ans, 16 ans.
Donc tu pars quand même assez tôt du petit village de Rayac,
ouais.
Quand même à Issoire.
Enfin, ouais, une quinzaine d'années on a, je pense.
Ouais, ouais, ouais. Donc il y a quand même un éloignement, quoi, une coupure, ouais. Jeune, qui se fait jeune, quoi.
Ouais. Bah, à peu près toutes les filles que je côtoie dans le rugby ont vécu ça. On est obligé de partir. Même, je pense, tous les sportifs sont obligés de partir, sauf s'ils sont originaires d'une grande ville.
Mais ouais, ouais, tout à fait.
On est obligé de partir. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Pour, souvent même pour les études de toute façon et en plus pour le sport,
et oui, pour on le est obligé sport, de ouais, partir. Pour toucher le haut niveau. Ouais.
Parce qu'il n'y avait qu'à l'époque que 4 pôles espoirs. Alors maintenant c'est des académies, ça a changé le système, mais avant il n'y avait que 4 pôles espoirs féminins en France.
D'accord.
Donc il y avait Toulouse, j'avais pas été prise et donc j'avais été prise à Issoire.
Ok, c'est curieux, Issoire c'est rattaché par rapport au, j'imagine au lycée il y a un appel d'offres et il crée une section rugby et
c'est pas
sous l'égide de la fédération. Si.
Ben maintenant ça a changé, c'est des académies, donc dans chaque région, département, il y a des académies.
Et c'est porté par les clubs pro.
Maintenant un peu, je crois que ça fonctionne un peu comme ça. Avant aussi, globalement, Issoire, c'était un peu avec Romagna, du coup la SM Romagna.
Ah ouais, Romagna, ouais,
enfin
ouais.
Beaucoup de joueuses étaient en lien. Après Toulouse, il y avait ça, à l'époque ça devait être Saint-Aurens ou Fonsorbe. Parce que le stade a existé après. Ouais, ça. Mais tout a changé maintenant, donc ça n'a plus rien à voir.
Ouais, t'as connu l'émergence, petit à petit, de la prise de conscience que le rugby féminin pouvait être porteur pour la fédération, enfin pour le rugby, tout simplement. Et après, on va le voir, ça a découlé. T'as du l'amateurisme que la fédération ou que le rugby porte. Tu as fait après le professionnalisme, ça c'est sûr, jusqu'à l'équipe de France. Puis tu as connu tous ces petits échelons, toutes ces modifications, toutes ces transformations qui fait qu'aujourd'hui, le rugby féminin est porteur et vachement reconnu. C'est quand même c'est génial, quoi.
Oui, alors il y a eu déjà une grande évolution. Ça, je ne l'ai pas vécu. En 2014, les plus anciennes le racontaient, c'est la Coupe du Monde en 2014, si je ne dis pas de bêtises, qui se passait à Paris et notamment à Marcoussis. Et elles ont vraiment senti déjà un avant-après, au niveau de la structure, rien qu'au niveau de la télévision. Avant 2014, tu ne voyais pas beaucoup de rugby féminin à la télé.
Très peu, très peu.
Puis on a commencé à voir les matchs sur France 4 à l'époque.
Ah oui.
Donc ça a commencé comme ça, pas tous les matchs, puis tous les matchs. Et quelques matchs importants, là j'ai commencé à connaître tout ça sur France 2. Notamment, bon, c'était l'Angleterre, les gros matchs. Et puis maintenant, on n'est que sur France 2. Depuis, ça fait quelques années qu'on est que sur France 2.
Donc, et les audiences augmentent.
Et les audiences augmentent chaque année. Ouais, on fait des pics à je crois, 2 millions. Donc oui, c'est une grosse évolution. Et puis de toute façon, je pense que s'ils acceptent qu'on soit sur France 2, c'est bien que ça les intéresse.
Ouais,
donc j'imagine que ça doit bien fonctionner.
Ouais. Non, ouais, mais c'est génial, c'est quand même intéressant d'avoir ce parcours-là, c'est super. On va aller chercher après les détails de tout ça jusqu'à Blagnac, jusqu'à ta première sélection. On se retrouve après, d'abord on écoute un petit peu Chris Rea avec Auberge. À bientôt sur CFM Sport 46, à tout à l'heure. Something gets
pitch, an electric twitch. Sometimes I swear this body's got a mind of its own. This is the naked truth. This is the light. There's only one place left to go. Shiny cloak and an unseen silver dagger. You can talk till you ache, give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
CFM Sport 46, on est avec Clara Joyeux, pilière de l'équipe de France et du club de Blagnac. 27 ans, 49 sélections, c'est ça Clara? Que je me trompe pas parce que voilà, il fallait rectifier un petit peu les chiffres. On parlait à la fois de l'émergence du rugby féminin que tu as connu et ton parcours. Donc on disait qu'effectivement la télé s'intéressait de plus en plus au rugby féminin et que le monde sportif et du rugby attendait et attend bien entendu que le rugby féminin se développe et nous apporte une petite Coupe du Monde qui sera, mais ça on va en parler après, dans quelques mois il y aura une préparation pour la Coupe du Monde. Mais avant ça tu nous parlais de ton parcours, tu étais donc à Issoire. Tu as été sélectionné en moins de 20 ans. Avant ça, tu as été repéré, c'est ça?
J'ai fait les moins de 20 ans. Donc, quand j'étais à Issoire, j'étais encore en cadette.
Ouais.
J'ai 16 ans. Et après, j'arrive à Brive, Limoges. Et Limoges, donc c'est l'année de Limoges, oui, je fais ma première sélection à moins de 20.
C'était dans le cadre du tournoi des Six Nations ?
Alors non, à l'époque, on faisait juste une confrontation contre les Anglaises en match aller-retour, un match en France, un match en Angleterre. Maintenant, elles ont une plus grosse compétition où elles font un tournoi sur un week-end, je crois. Mais à l'époque, non, c'était que les Anglaises qu'on jouait en moins de 20.
Et alors, pour tes premières sélections, les pilières en face anglaises, tu les as un petit peu travaillées. Vous avez gagné ce jour-là?
Alors, il y a un match qu'on a perdu, un match qu'on a gagné. Je crois, je me souviens plus si c'était la première année, parce qu'on le fait sur 2 ans, du coup, les moins de 20 ans.
D'accord.
Non, on avait gagné les 2 premières années, et c'est l'année suivante qu'on avait perdu un match, je crois, le match en France.
Bon, ça fait 3 victoires sur 4. Oui. Les Anglaises, c'est déjà rassurant, ça nous fait plaisir.
Mais les Anglaises, en fait, les équipes jeunes anglaises sont pas extraordinaires. Chaque année, les équipes jeunes, à chaque fois, les gagnent très largement. C'est l'équipe au-dessus qu'on a un peu plus de mal à.
C'est après quand c'est en senior qu'il y a cette grosse difficulté, ouais, qui est que l'équipe de France a du mal à gagner contre les Anglaises.
Oui, c'est ça.
Ça, c'est dû à quoi chez eux? C'est quoi leur modèle? Ils prennent que des seniors, ils les sélectionnent, ils font faire un peu de muscu, ils disent toi, tu vas aller attaquer les Françaises.
Je ne saurais pas, la formation est un peu différente. C'est vrai que. On voit très peu de très très jeunes chez les Anglaises. Ils les forment beaucoup plus longtemps que nous. Nous, on voit des très très jeunes très vite. Après, leur championnat est totalement différent. Elles sont semi-professionnelles dans leur championnat. Donc ouais, est-ce qu'il y a plus de temps pour les former, pour, comme tu dis, musculairement aussi, qu'elles prennent un peu? Parce que bon, c'est vrai qu'au niveau du poids, ils nous mettent à chaque poste quelques kilos aussi.
C'est une machine, ouais. Tu les vois, mais c'est pas possible, à 8 là.
Bon. Ouais. Donc,
tu vas cartonner tout ça la prochaine, hein. tu vas les remuer.
Donc je sais pas la différence, mais ouais, notamment au niveau du championnat, quand même, il y a une petite différence.
Alors justement, sélection, donc tu me dis autour de 2017.
Oui, la tournée d'automne 2017.
Et 2017, tu rejoins Blagnac Rugby Féminin.
C'est ça.
Voilà. C'est le coprésident qui est. C'est Michel A qui le. Non, il n'a pas des parts là-dedans.
À l'époque, il l'était, oui. Avec Benoît Tré, il avait des parts. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ça a changé. Mais à l'époque, oui, c'était Benoît Tré et Michel A qui était. Alors, il n'était pas président, oui, il était juste actionnaire.
Actionnaire.
Je crois, oui.
Bon, maintenant, il essaie d'avoir des actions avec le Racing, mais c'est compliqué. On le salue quand même, Fred Michelac. Dis-moi, donc à Blagnac, comment ça se passe là? Tu signes à Blagnac, tu es semi-pro, tu es amateur, tu as un boulot à côté. Okay, explique-nous tout.
Ah non, pas du tout. Donc c'est Nico Tranier qui me contacte. Le championnat n'était pas du tout professionnel, il était amateur et il l'est toujours actuellement d'ailleurs aussi.
Okay. Donc
on commence à avoir des défraiements, on va dire, mais à l'époque, il y avait rien du tout. Il y a eu une évolution, mais c'est vrai que le championnat avance pas aussi vite qu'on le veut. Ça avance petit à petit, on va dire.
Parce que là, donc tu es au, comment on appelle le haut niveau du rugby féminin, c'est pas le top 14?
C'est l'élitune.
L'élitune. Tu signes à Blagnac en élitune, ça veut dire que tu es obligé de travailler à côté de Blagnac?
Alors à l'époque, j'étais au Pôle France aussi. Donc c'est l'année où d'ailleurs je suis arrivée à Blagnac, je fais l'année du Pôle France. Donc le Pôle France, globalement, on allait une semaine tous les un mois et demi à Marcoussis. Pour s'entraîner ensemble, on était un groupe de entre 18 et 25 ans, je crois. Et donc j'étais, bon, pareil, pas rémunérée, j'étais étudiante. Et en fait, c'est l'année d'après qui commence à créer les contrats semi-professionnels pour les filles à 15. Donc ça avait commencé avec des contrats à 50%. Et donc ça a commencé comme ça. Donc je crois, je sais plus si c'est 2018 ou 2019 qu'on signe les premiers contrats.
2018, je crois, d'après
ouais,
un petit
je
peu
crois que c'est
que
l'été
j'ai vu,
2018.
Tu fais partie des 24 premières joueuses françaises de rugby à signer un contrat fédéral.
À 15, ouais, parce qu'à 7, ça existait déjà.
Ah ouais,
à
d'accord.
À 15, ouais.
Ok. Donc là, Mais la rémunération doit être, je ne sais pas...
C'est des contrats à 50%. C'est, en plus, c'était catégorisé en contrat jeune, un peu contrat élite. Donc les jeunes, c'était les plus jeunes. Et les élites, c'était les filles les plus anciennes. Et moi, je faisais partie des contrats jeunes. Donc oui, ça... Alors moi, j'étais étudiante, donc ça faisait quand même un bon complément de revenus. Quoi qu'il arrive, moi, pour moi, c'était du plus, mais... Ça m'a permis quand même d'être un peu indépendante, mais c'est vrai que tu peux pas en vivre, non.
Ouais, c'est difficile par rapport aux mecs et quand tu sais maintenant les salaires auxquels on arrive. On se retrouve après, on fait une petite pause musicale avec FFF et puis on retrouve Clara Joyeux qui va nous expliquer un petit peu tout ça et son parcours Blagnac équipe de France. On va basculer là-dessus jusqu'à la Coupe du Monde qui est dans quelques mois. À tout à l'heure sur CFM 46.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot. CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
CFM Sport 46, on est avec Clara Joyeux et Clara nous expliquait un petit peu son arrivée à Blagnac, au rugby de Blagnac et notamment les difficultés aussi qu'on peut rencontrer dans le rugby de haut niveau féminin, à savoir la rémunération et le fait de pouvoir conjuguer un boulot ou les études et le fait de jouer en club. Donc tu nous disais donc tu étais pour reprendre au pôle espoir à Toulouse étudiante et tu jouais à Blagnac, il y avait une petite rémunération, mais tu as fait partie des 24 premières joueuses qui avaient un contrat fédéral, c'est ça hein ?
Oui, alors j'étais pas au pôle
à Toulouse ?
À Toulouse, j'étais au pôle France.
Au pôle France, pardon.
Et du coup, oui, je faisais mes études et donc j'avais ce contrat jeune qui me permettait quand même en tant qu'étudiante de, enfin ça faisait un apport quand même. Et donc après, j'ai fait mon BTS en 3 ans au lieu de 2. Donc au fil des années, les contrats, on a réussi à négocier de gagner un peu plus. Après, il y a eu un système de, les systèmes ont changé, c'était plus deux différents contrats, c'est devenu un barème au niveau de ta première sélection. En fait, plus tu avais de sélection, plus tu gagnais.
Ah oui.
Donc les barèmes ont commencé à changer. Et puis, j'ai eu mon BTS, donc c'était l'année du Covid, en quoi, 2020.
Ouais.
Et donc à partir de là, j'ai décidé, enfin j'ai aidé déjà mes parents sur l'exploitation. Entre-temps, on était passé à 75% au lieu de 50%, je crois que c'est à peu près arrivé là. Et donc j'ai aidé mes parents et je voulais pas forcément être rémunérée, mais c'est vrai que mon père m'avait proposé de finalement le 25% restant de le signer en tant que contrat.
Ah ouais.
Parce qu'il m'a dit en tant que déjà d'un point de vue assurance, parce que je travaille au labo qui se situe à Saint-Pierre-la-Feuille, pas loin d'ici. Il a dit d'un point de vue assurance, déjà si t'arrive quelque chose, bon ben au moins t'es couverte.
T'es couvert.
Donc voilà, ça s'est fait comme ça et donc j'ai signé le contrat à 25% chez mes parents du coup.
Ok. Donc pour les auditeurs qui nous écoutent, les papas, les mamans qui pensent que s'ils ont leur jeune fille qui veulent être professionnelle de rugby. Mais c'est encore un petit peu compliqué et la galère, quoi. À part être au niveau pour. Et encore, t'as des contrats, toi, de sponsoring ou pas ?
Non.
Ça n'existe pas chez les filles ?
Si, ça existe. Alors, moi, je ne suis pas trop réseaux sociaux. J'ai eu Instagram sur le tard.
Ouais.
Donc, c'est pas quelque chose qui me passionne. Bon, il y a des filles qui aiment ça, qui font ça, mais.
Tu ne vas pas nous vendre des voitures
Non.
C'est un tabac ou du coup qu'ils font des pubs pour les voitures?
Ouais, oui. Non, là, c'est un autre niveau.
Je te le souhaite.
Mais je fais pas tout pour. Après, on peut. Enfin, quand il faut prendre des photos, ça me saoule de prendre des photos, sincèrement. Donc, c'est pas quelque chose que. C'est quelque chose qui peut être très utile, je sais. En plus, il y a plein de filles qui le font très bien, mais moi, c'est pas mon truc.
Ouais, c'est un truc un peu moderne. Bon. Dis-moi, Clara, première sélection en équipe de France le 2 février 2019 contre les Pays de Galles, en tournoi destination ?
Non, c'était à la tournée d'automne 2017.
Ok, d'accord. Vous les avez gagnés ?
Oui, c'était une tournée qu'on avait fait contre l'Espagne et l'Italie, et c'était une tournée post-Coupe du Monde, du coup, et on était beaucoup de jeunes... qui était au Pôle France du coup en même temps et ouais on avait gagné assez, je me souviens plus du score mais on avait gagné assez largement oui.
Et après ça a basculé donc du tournoi destination
oui.
Jusqu'à la Coupe du Monde 2022 en Nouvelle-Zélande
oui c'est ça.
Raconte-nous un peu comment ça se passe là, les sélections.
Déjà, on a eu la Coupe du Monde qui a été décalée d'un an à cause du Covid, justement, parce qu'en Nouvelle-Zélande, le Covid, il rigolait pas du tout. Donc,
à l'image des Néo-Zélandais.
Ouais.
Plus gaillard, le Covid néo-zélandais.
Donc, la Coupe du Monde a été décalée de un an. Entre-temps, on avait eu aussi un changement de staff. C'est un peu tout
bousculer un petit peu les choses.
Voilà, c'est un peu bousculer les choses. Et finalement, on part pour cette Coupe du Monde. Et le résultat, c'est qu'on échoue à un point contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale. Et la Nouvelle-Zélande finit championne du monde en plus. Donc, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer en finale, puisqu'on aurait pris les Anglaises. Mais en tout cas, un point, c'est...
C'est à la fois triste et fabuleux, mais un point... Oui. L'arbitrage, non, on va pas en parler. L'arbitrage a été bon ce jour-là.
J'ai pas le souvenir, non.
Non, pas de
polémique,
inutile. Vous avez un petit peu secoué la mêlée néo-zélandaise sur ce match-là. Comment tu l'as vécu ? Comment t'as vécu cette Coupe du Monde et ce match emblématique, quand même ? C'est la Nouvelle-Zélande, la fougère, c'est parlant pour rugby, hein.
Oui, déjà aussi, on avait dans la poule l'Angleterre. Et j'ai le souvenir de ce match contre l'Angleterre, un match de poule où vraiment on avait vraiment fait douter ces Anglaises et on avait fait un très beau match. On le perd. Mais j'ai le souvenir que j'ai rarement vu dans le regard des Anglaises ce doute où elles savaient pas quoi faire. Vraiment, on les voit rarement comme ça, les Anglaises. Et là, elles savaient pas quoi faire. C'était un peu n'importe quoi, ce qui est très rare dans le jeu britannique. Donc, ouais, un bon souvenir de ce match quand même, malgré la défaite. Et donc, c'était ouais, le match de poule. Donc, on finit deuxième de la poule. Mais après bon, quart de finale contre l'Italie. Et donc, ouais, les Néo-Z, bah, oui, c'était un bon souvenir. En plus, c'était à l'Eden Park. Donc, un match quand même.
Fabuleux.
Un stade mythique.
Historique, mythique. Ouais.
Donc, ouais. Un bon souvenir. Après, je t'avoue que je me souviens plus exactement du match. Je me souviens qu'il y a des petites fautes un peu bêtes, mais bon, à ce niveau, c'est toujours des fautes un peu bêtes que.
Et ouais, et ouais.
On sait qu'on peut gommer, mais oui, ça reste malgré tout un bon souvenir, mais ouais.
C'était
dommage.
Qui le staff là, c'était qui du coup?
C'était y avait Thomas Darak qui était en manager et David Hegel qui était déjà là, que Thomas avait fait venir et qui actuellement sont devenus managers.
Ah ouais, ok. D'accord. Là, comment ça se passe? Tu as une préparation physique particulière? Vous avez un suivi? Vous êtes, comment on se prépare à une Coupe du Monde?
Alors,
à l'autre bout du monde, hein, avec oui. Décalage horaire, etc.
Alors du coup, on prend à la fin du championnat, on va dire. Donc il y a un stage qu'on fait juste après les phases finales, un stage, on va dire, médical, où on fait des tests physiques, un peu tout ça. Après, on part en congé. Alors je sais plus, de 3 semaines à peu près, je pense, comme là actuellement.
Donc là, vous avez un planning à respecter, j'imagine.
Oui.
Ou c'est open, c'est pas open bar, hein.
Pendant les congés, non, on fait. Ben après, chacune est responsable. Dans les congés, tu fais ce que tu veux, on va dire. Mais tu sais que t'as la prépa qui t'attend pendant 2 mois, donc bon, tu faut assumer après. Donc,
ouais, là, allez-y, profitez-en, les filles, parce que vous allez en baver pendant 2 mois.
Non, on n'a aucune consigne, mais bon, faut savoir ce que tu veux. Mais par contre, après, on a des GPS. Donc, chacune a son boîtier GPS. Et à partir de là, on a des semaines PPA, ce qui s'appelle. Donc, c'est globalement de la prépa physique qu'on fait chez nous. Donc, c'est pour ça qu'on a un GPS qu'on doit mettre. Donc, des séances courses qu'on fait, qui nous envoient le prépa. Ça, c'est en dehors des congés.
Ah ouais, d'accord.
Et ben, des séances de muscu qu'on doit faire aussi en autonomie. Et après, ben, y a des stages qui s'enchaînent, différents stages, rassemblements ensemble où on s'entraîne ensemble.
Tu peux tricher, tu peux mettre les GPS sur les moutons ou
J'aurais pas choisi le mouton pour aller plus vite, mais...
Le chien, je sais pas.
Le chien peut-être, à la limite, mais... Non, je pense qu'il va vite s'en rendre compte au niveau... Parce que moi, il voit quand même ce qu'on fait, on a certaines... Enfin, on a des données, on a des accès à faire, ce qu'on dit, des accélérations, de la distance haute intensité. On a certains critères à respecter, on va dire. Donc bon, c'est le chien, je ne suis pas sûr qu'on arrive à
faire... Ouais, c'est peut-être pas bon. Et ça veut dire que le rugby féminin, quand même, a pris des outils du rugby professionnel des mecs. Ils s'en servent, quoi. C'est...
Ouais. Ouais. Les GPS, c'est vrai que j'ai connu les premiers entraînements où on n'avait pas de GPS. C'est assez récent finalement les GPS, j'arrive pas à situer exactement quand est-ce que c'est arrivé, mais maintenant ouais, avant on les mettait juste pendant les matchs, maintenant c'est chaque entraînement, on a le nôtre qu'on doit porter en club chaque entraînement.
C'est fou ça.
Donc c'est vrai que j'arrive pas à situer quand, mais ouais, c'est assez récent les GPS.
Bon, mais après ouais, c'est des outils qui permettent de perforer, c'est moi j'en ai un dans la bagnole, ça me suffit largement. On se retrouve après Clara pour la dernière partie de notre émission, on va écouter Fatoumata Diawara et Tourmani Diabaté, et on se retrouve après pour conclure cette émission et nous donner quelques anecdotes aussi du rugby pro, de l'équipe de France, tout ça. À tout à l'heure sur CFM Sport 15.
CFM.
Allongé seul sur mon lit, j'ai le mal du pays, j'ai le cœur qui s'entête quand j'ai l'âme au Mali. C'est comme un mal de tête, une mélancolie qui me dit je suis Mali, je suis Mali. Le corps à Paris, mais j'ai l'âme au Mali et le cœur est bleu. c'est infini Sahel, que ta lumière est belle. Voyage en solitaire pour toucher ta magie. Noire ou blanche, qu'importe, le mélange est inouï, vu d'ici. Je suis Mali,
Bissassi, Mali, Bissassi.
Je suis Mali,
Bissassi, Mali, Bissassi.
Je suis Mali.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
CFM Sport 46, on est avec Lara Joyeux qui nous racontait un petit peu son expérience sur la Coupe du Monde, sur les outils mis à disposition, notamment pour performer, on parlait de GPS, et puis aussi tu me disais en off qu'il y a des nouveaux protège-dents qui sont apparus.
Ouais, alors c'est des protège-dents connectés qu'on a testés, on a été les premières à tester sur la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande il y a quelques années. Donc c'est des protège-dents qui ont une petite puce sur le côté et ça arrive à détecter. Alors maintenant, avant c'était pas en direct, il fallait télécharger puis ils avaient les infos. Maintenant je crois que c'est en direct. Et donc il y a un responsable sur chaque match déjà qui analyse et qui dit s'il faut sortir la fille parce que le protège-dents a bipé. Et donc ces protège-dents, alors je ne saurais pas expliquer exactement le système, on nous en avait globalement parlé, mais il me semble qu'il y a un facteur, enfin il y a un calcul avec la vitesse à laquelle la tête part. Et l'impact, enfin ça calcule un tas de choses et ça arrive du coup
en temps réel.
Là, c'est en temps réel. Il me semble que maintenant, ils arrivent à faire en temps réel. Et après, c'est un protège-dents qu'on doit apporter à chaque entraînement pour avoir des données de base. Parce que bon, plus ils auront de données, plus ils arriveront à être précis. Et pour notamment les matchs, parce que c'est ça qui vise à éviter les commotions ou en tout cas à traiter rapidement quelqu'un qui est commotionné. Ouais.
Et oui, les fameuses commotions, donc effectivement que tout le monde soulève, notamment Sébastien Chabal et pas que, parce qu'il y a aussi des féminines qui le soulèvent. Hein.
Oui, mais assez récemment, oui, il y a Romane malheureusement qui a dû déclarer forfait pour la Coupe du Monde parce qu'elle a été touchée, elle a fait plusieurs commotions, donc elle en a fait une notamment, je me souviens, en Nouvelle-Zélande contre l'Angleterre, ce fameux match. Où c'était assez impressionnant, je m'en souviens vraiment, elle bougeait plus, donc c'est assez impressionnant quand tu vois le geste.
Ouais, c'était sur un plaquage.
Romane, alors elle joue troisième ligne, donc je me souviens que c'est dans un ruck, je sais pas si elle essaye de gratter ou si elle plaque, je vois l'endroit, c'était un peu en zone de marque. Je sais plus, mais elle se retrouve sous le ruck et vraiment elle bougeait plus quoi. Donc et elle en a fait, je sais pas combien, mais elle en a fait plusieurs. Donc là, ouais, elle a été obligée. On est suivi généralement par des neurologues. Donc elle a dû voir un neurologue et là, je pense que ça a été une décision commune pour le.
Mais pour son bien-être, tout à fait. Ouais. Ouais, ben on lui souhaite prompt rétablissement. Hein. Et on peut se dire que aussi chez les féminines, il y a ce danger, cette problématique de la commotion que tout le monde soulève. Je sais qu'il y a un groupement aussi de joueurs internationaux qui veulent porter plainte ou mettre, voilà, en tout cas faire une action à World Rugby. Mais bon, qu'est-ce que on va pas changer forcément des règles. Enfin, on va sûrement en adapter, mais c'est compliqué quand même pour anticiper ça.
Ben, c'est très compliqué. Je pense que les protège-dents sont déjà un bon levier. Après, il faut aussi. Je pense que c'est pas tant le haut niveau quand même. Ils commencent à mettre des choses en place. C'est peut-être le bas niveau, j'ai envie de dire, qui est plus dangereux, parce qu'un mec qui joue en honneur, il se prend autant de chocs.
Pareil.
Bon, peut-être les impacts, la vitesse, c'est moins rapide, mais je pense que c'est là qu'il faut plus faire un gros travail, parce que c'est là qu'il y a peut-être pas forcément des docteurs au bord des terrains.
Complètement, tu as raison.
Les mecs ou même les filles sont moins, enfin notamment les mecs, je pense, par fierté, ils vont pas vouloir sortir alors qu'ils sont commotionnés. Donc c'est peut-être plus sur les petits niveaux qu'il faudrait mettre en place
la technique,
des choses.
Aussi le travail de la technique et pas
oui,
forcément.
Oui, déjà je sais que les règles sont différentes au niveau de la hauteur de plaquage, ça ils l'ont changé. Après il y a aussi au niveau des rucks, je pense que c'est aussi la technique qui fait sur beaucoup.
Ouais, parce que c'est violent. Hein. Je crois que la phase la plus, à la fois dangereuse et qui fait on n'y aimerait pas s'y trouver, c'est dans le ruck, quand les gens sont positionnés sans pouvoir se protéger et que l'adversaire arrive lancé comme un obus. Là, on se dit quand même que c'est vraiment dangereux, quoi.
Les rucks et la tête au niveau du plaquage, si tu mets ta tête dans le mauvais sens, mais bon, ça va être de la technique, mais c'est vrai que les rucks, parfois, ça peut être assez impressionnant.
Toi, pas beaucoup de blessures ?
Si, j'ai eu l'opération de la cheville quand j'avais 16 ans à peu près. Et après, j'ai eu très peu de blessures jusqu'à récemment, où j'ai eu il y a un an une opération des cervicales, donc hernie discale, assez classique pour une première ligne.
Pour un pilier, oui.
Pas très original, mais donc voilà, hernie. J'ai commencé à avoir des fourmillements oscillation de l'année dernière. Et ça me faisait une grosse contracture. J'allais voir le kiné tout le temps. Et j'ai attendu que les phases finales se passent et j'ai fait un IRM. Et donc voilà, ma licence était bloquée. J'étais catégorisée G3, ce qu'ils appellent.
Ils te bloquent, la licence, ouais.
Ouais, il y a G1, G2, G3. Donc G1, c'est une hernie, mais ça va. G2, je crois que si t'es professionnel, tu peux jouer, notamment en top 14, tu peux jouer, mais si t'es en bas niveau, non.
Ok.
Et G3, là, c'est ta licence. Enfin, le chirurgien, quand il a vu le résultat, il m'a dit ta licence est bloquée de toute façon. Soit tu arrêtes le rugby pendant un an et tu vois si l'hernie se résorbe, soit opération. Donc, en sachant qu'il y avait la Coupe du Monde, donc je voulais pas pendant un an. Ne pas m'entraîner, ça aurait été compliqué pour la Coupe du Monde. Donc je me suis fait opérer, donc ça s'est bien passé, hormis le fait que j'ai attrapé un staphylocoque, mais sinon. Nouvelle opération.
Bravo, super.
Donc voilà, à part ça, sinon tout s'est bien passé.
Bon, mais on te souhaite que ça continue. Parce que là, il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a une petite pause, et vous partez quand là en stage.
Alors, donc là, on est en congé actuellement. On a le début de la prépa fin juin. On a un rassemblement qui va être principalement, je crois, ça va être les shootings photos, les médias, tests physiques, tests kinés, un peu tout ça. Après, on revient le week-end et après, on va enchaîner 3 blocs de 10 jours. Sur 2 rassemblements à Marcoussis, 1 rassemblement à Tignes. Et la liste sort à peu près mi-août, je sais, j'ai plus les dates à peu près, mais il y a un match aussi de préparation contre l'Angleterre à Mont-de-Marsan. Et après, ça s'enchaîne, la Coupe du Monde s'enchaîne mi-août.
Où est la Coupe du Monde ?
Elle est en Angleterre.
Ah, alors là, il va pas falloir s'échapper, les filles. Et là, je peux vous dire que là, si on peut gagner les Anglaises chez elles,
non, ça serait très beau.
Je peux vous dire qu'il y a une révolution, hein. Là, il va y avoir des troisièmes mi-temps qui vont. Bref. Donc, écoute, on te souhaite vraiment. On te souhaite d'être prise, mais on a eu le manager, on va lui dire que ça va être fait. Hein. Donc, mais moi, je te souhaite, et CFM te souhaite que du bon pour le futur.
Merci.
Une longue vie sportive et professionnelle après. Hein. On te remercie vraiment d'avoir accepté. d'être dans ma dernière émission à CFM Sport 46. J'avais fait la première avec mon ami Jérémy Vanin, entraîneur d'Aurillac, qui a reconduit pour une année son entraîneur qu'on salue, et je clôture par Clara. Donc merci Clara, et merci aussi à Gilles Barret pour cette expérience super. On a essayé de faire une émission à la fois mixte, homme-femme, handi, valide, au mieux qu'on pouvait, de mettre en avant les sportifs lotois et du cadurcien. Je vous salue, et merci beaucoup encore à Gilles, à CFM, et merci Clara, et que du bon pour la Coupe du Monde. Il faut écraser ces Anglaises, hein. tu me les tords à mêler. À bientôt, merci.
Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout du cœur, mais le dire quand même. Un simple mot et l'aveu d'une larme au bord de tes yeux feront de moi un homme heureux. Un jour viendra, tu sauras tout. Ces choses qui ont fait ma vie bien plus noire que rose. Tu comprendras mes pudeurs et tous ces mots qui me font peur, que j'ai cachés comme un voleur. Toi, c'est le ciel qui t'a. Moi, pour me réapprendre à aimer. Et attends, et laisse faire les jours. Laisse le temps au temps et à l'amour. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerai. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Du bout des yeux, mais le dire quand même. Dans le ciel de ton regard, lire ton désir et ma victoire. Un jour viendra, tu m'aimeras. Toi, côté des choses essentielles, par défi pour brûler mes ailes. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et j'aimerai. Attends, laisse faire les jours, laisse le temps au temps et à l'amour. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime et je t'aimerai. Je t'aime.
CFM. Trois lettres, un esprit, le rock.